Bonjour et bienvenue à Histoire de s'en jaser. Ici Rose Tremblay-Fontaine et je suis accompagnée de Frédéric Boudreau dans l'animation. On va la laisser se présenter dans quelques instants, mais avant, on va vous présenter l'invité de la semaine. C'est assez important, en fait, le plus important, Maïté Pajot. Vous l'avez déjà entendu dans le balado précédent. Elle m'accompagnait d'ailleurs à l'animation là, pendant ce balado-là. Aujourd'hui, Maïté, elle vient nous parler de la chute Montmorency à travers les âges. Mais là, avant qu'on passe au vif du sujet, Fred, est-ce que tu voulais te présenter? Est-ce que tu voulais nous parler de toi? Dire qu'est-ce que tu fais? Puis tout ça, là.
Ben oui, merci Rose. Donc moi, c'est Frédéric. J'ai un baccalauréat en histoire. Je suis maintenant en enseignement. Donc, très excitée de faire partie du podcast aujourd'hui. On va voir là qu'est-ce que je peux apprendre sur les chutes Montmorency, ce si beau site de la CEPAC.
On a déjà tout plugué, donc la chute, la CEPAC, et puis on va jaser de son histoire, quand même très longue.
Quand même très longue, donc la chute, l'histoire, ça commence quand, Maïté?
Là, découragez pas les auditeurs, là.
Ben, on sait pas quand ça commence, parce que l'histoire de la chute a commencé avant les explorations, et je mets des guillemets, là, donc vraiment avant les premiers contacts des Européens avec le territoire. Puis à cause du manque de sources, on sait pas comment les Premières Nations utilisaient la chute Montmorency, mais c'était probablement un lieu de rencontre. En fait, c'est ça que les archéologues ont finalement décidé de... Bon, sûrement que c'était un site de rencontre. On n'a pas d'habitation qui est à proximité. Mais il y a des pointes de flèches qui ont été découverts du côté Bois-Châtel de la chute. Là. Donc, du côté vraiment l'Ange gardien, côte de Beaupré. Mais c'est tout. Donc, l'histoire commence à un moment donné. mais son histoire se concrétise un peu, surtout à l'époque de la Nouvelle-France, donc surtout du côté de la seigneurie de Beauport, donc de l'autre côté de la chute. Pour faire un petit contexte géographique, la chute Montmorency est devant l'île d'Orléans. Du côté Québec, c'est le côté Beauport. Et de l'autre côté de la chute, immédiatement, on est aujourd'hui Bois-Châtel, à l'époque seigneurie de Beaupré. Puis c'est resté longtemps la seigneurie de Beaupré. Et puis oui, la chute et la ligne. Mais la question, puis plus tard dans l'histoire, ça l'a vraiment joué, là, des chicanes de clôture, comme on peut dire avec l'accent important, mais c'est même allé jusqu'en cour suprême. L'histoire de...
Mais pourtant, il y a une rivière quand même qui sépare les deux territoires.
Oui, mais la rivière la chute est en zigzag.
OK.
Donc, c'est pas une ligne droite. Mais là, comment on fait pour séparer ça? Mm-hmm. Mais bon, ça va être plus tard. On va le découvrir. Époque Nouvelle-France, en fait, dans les sources que j'ai découvertes, ça n'a pas tant créé de problème parce que la chute n'était pas exploitée en tant que telle par des industries. Donc, il n'y avait pas la question qui s'était posée ou en fait, pour l'instant, on n'a rien trouvé par rapport à ça. Puis là, je dis on n'a rien trouvé par rapport à ça, mais j'ai pas encore expliqué pourquoi je parle de la chute Montmorency et pourquoi je peux dire qu'on n'a rien trouvé et le « on » n'est pas un dédoublement de personnalité. Mais et moi et mes collègues à la CEPAC, donc ça fait déjà 3 ans que je suis recherchiste/guide à la chute Montmorency. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de commencer mon bac et d'être déjà employée à la CEPAC comme guide. Puis j'ai eu des contrats de recherche parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait pas beaucoup de recherches développées sur l'histoire, une histoire scientifique de la chute. Donc j'ai commencé à commencer. Ben, faut le dire comme ça, commencer, parce que c'était un peu...
C'était mal à mancher, c'était ça.
Ben, j'avais pas commencé mon bac et je cherchais mm-hmm. dans les sources, mais j'ai eu l'aide précieuse de plein d'archivistes, puis on a fini par faire quelque chose parce que j'ai un de mes collègues qui est archéologue, puis en fait, on a fait une synthèse des connaissances. Donc ça, c'est vraiment là, quand on parle d'un milieu qui a besoin d'un nouveau plan d'interprétation, on l'a fait l'hiver passé, puis c'est vraiment ça qui nous a permis d'assurer nos connaissances, puis de regarder qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, les limites de sources qu'on a présentement, puis où on va aller chercher plus profondément. Moi, je vais aller pousser sur l'époque pré-industrielle parce que c'est là que j'ai vu un potentiel exceptionnel d'un corpus de sources qui n'est pas encore exploité sur la chicane de clôture de la chute qu'on va peut-être pouvoir reparler tantôt, mais aussi qu'on a oublié plein de parties de l'histoire de la chute qui sont quand même magnifiques puis qui pourraient vraiment venir rejoindre les gens qui visitent la chute. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Pas juste l'histoire, en fait, qui est déjà présentée des grands personnages. C'est souvent ça qu'on a avec une histoire qui a été faite au siècle dernier. Mais vraiment l'histoire qui vient rejoindre les gens aux quatre coins du Québec.
Mais c'est ça le danger des lieux d'interprétation aussi, c'est qu'on se concentre sur une seule partie de l'histoire et c'est elle qu'on répète à tous les visiteurs,
ouais,
année après année. Donc, à un moment donné, c'est ça, il faut un sang nouveau un petit peu. Donc, c'est ce que t'apportes, c'est ce que je comprends.
Oui, ben en fait, c'est l'équipe au complet parce que moi, tout seul, avec mes recherches en histoire, moi, je suis dans ma bulle puis je m'en rends compte. Moi, j'ai mes collègues qui sont en récréologie, en archéologie, en interprétation, en médiation. Puis tout seul, j'aurais pas été capable de faire la synthèse des connaissances, qui est pas juste en histoire, mais en archéologie, en faune, en flore, en géographie, en géologie, en géographie humaine. Tu sais, dans le fond, tout ce qui fait le parc de la chute Montmorency, donc vraiment l'ADN du parc. Puis ça, on fait ça pour pas justement faire une interprétation qui va pas être adéquate au public. Tu sais, qu'est-ce que notre public veut voir? Puis nous, vu qu'on est un site, oui, de la CEPAC, mais un site qui est international, on est le deuxième site le plus visité après le Vieux-Québec. Donc, on a des gens de partout qui viennent. Puis les gens de partout, ben ils s'attendent pas à avoir la même interprétation. Donc, ça fait vraiment... On a une interprétation touchée à la chute Montmorency. Donc, c'est pour ça qu'on prend notre temps.
C'est vraiment cool que tu sois capable, justement, de vulgariser l'histoire de la chute, de, justement, la rendre digeste pour les visiteurs, là, puis de créer un intérêt en eux.
Oui, mais les gens sont attachés à l'histoire de la chute. Puis ça, on l'a vu surtout pendant la pandémie, parce que les seuls visiteurs qu'on avait, c'était les Québécois et Québécoises. Puis le nombre de gens qui sont venus nous voir, nous encore, les guides, me voir pour me parler de quand ils sont venus marcher à la chute avec leur mère ou avec leur grand-mère ou que leur père travaillait en bas de la chute quand il était jeune, ou encore qui venait glisser à la... Tu sais, c'est des témoignages comme ça qui fait chaud au cœur, qui fait « OK, ben tu sais, c'est pas pour rien que je veux parler de cette histoire-là, de cette histoire publique qui vient, tu sais, déjà rejoindre plein de gens. »
Ouais, mais c'est ça, l'histoire de la chute, elle est ancestrale, on habite là, on occupe ce site-là depuis des générations et des générations, même que, c'est ça, ça remonte sensiblement au premier peuple. On en a parlé un petit peu au début, mais je me demandais s'il y avait des choses que tu pouvais nous dire de plus sur l'occupation des premiers peuples. Est-ce qu'il y avait des gens qui vivaient à la chute directement?
C'est vraiment difficile à dire. Donc, puis ça, nos recherches sont trop limitées encore pour définir qu'est-ce qui se passait durant que les Premières Nations étaient à la chute. Donc vraiment, nous, notre histoire est très collée à l'archéologie pour l'instant. Puisque l'archéologie a trouvé, et c'est surtout quand le site a été acheté par le gouvernement, par la CEPAC, quand c'est la CEPAC qui commençait à être structurée. Donc vraiment, dans les années 90-93, on a eu plein de recherches archéologiques, puis ça nous a confirmé les premières habitations trouvées. Puis ça, c'est vraiment l'époque Nouvelle-France. Donc c'est assurément cela qu'on peut commencer l'histoire pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose avant. Mais en ce moment, c'est comme trois petits points à suivre. Mais sur ce qu'on sait, ça a été concédé quand même assez tôt, parce qu'on le sait que la seigneurie de Beauport, là, c'est sûr qu'on parle pas des Premières Nations, mais on parle des colons français qui sont venus s'installer à Beauport. La seigneurie de Beauport, c'est une des premières, avec Robert Giffard, qui a longtemps été vu comme un seigneur colonisateur. Bon, ça peut être débattu. Monsieur Laberge dirait autrement. Je sais pas si vous connaissez la chanson des Cowboys fringants. Non? On va la mettre en annexe.
Chante-la.
Non. Non, ça, c'est quelque chose que je vais pas faire. Non, merci.
On veut garder les auditeurs, c'est pas ça.
Donc, Robert Giffard, vraiment, c'était un apothicaire, chirurgien, si ma mémoire est bonne, qui a concédé les premières terres à Beauport, qui était pas près de la chute. Donc, on est vraiment... la chute, c'est à l'extrémité de la seigneurie. Et je sais, vous avez déjà vu la chute, c'est des grèves. C'est pas un terrain hyper sympathique pour commencer à labourer une terre. Et donc, ça a pris quand même longtemps avant que ce soit habité. Mais style, première maison, fin du 17e, qu'on l'a eu assurément, parce que dans les transactions après, ça mentionne une maison près de la chute Montmorency. On a aussi des cartes qui nous peuvent nous dire qu'il y avait une, deux maisons, trois familles. Donc, la famille Vachon, Cadieu, Courville, qui était juste à côté. De l'autre côté, à Bois-Châtel, on avait la famille Caron et la famille Vézina. Donc, tu sais, on le sait qu'il y avait ces familles-là. Mais on a beaucoup plus d'informations quand les terrains ont été achetés par quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un qui est quand même assez important, donc on l'a retenu. On a retenu ses contrats pour apprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain quand cet homme illustre, entre guillemets, quand même illustre, mais il y avait d'autres personnes avant lui, ont habité à la chute. Et cette personne est Frédéric Haldeman. Avant Haldeman, parce que en fait, je pense que je l'aime trop, mais avant de parler de Fred, on va parler de la guerre de 7 ans, en fait, même du siège de Québec qui s'est passé à la chute Montmorency. Donc, on est en 1759, on connaît bien la bataille des plaines d'Abraham, mais est-ce que les gens connaissent peu ou pas beaucoup, c'est ce qui s'est passé avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est un siège qu'il y a eu à Québec, à la chute Montmorency. Donc, il faut juste se remettre dans le contexte où, bon, en 1759, qu'est-ce qui se passe du côté français? Ça va pas super bien pour plusieurs raisons, parce que c'est un conflit mondial, ça se passe pas juste à Québec. Mais tu sais, vraiment, ici, qu'est-ce qui vient nous rejoindre? Montcalm, qui est à la tête des armées françaises, ne s'entend pas bien avec le gouverneur Vaudreuil, gouverneur de Québec. Et puis, du côté anglais, on a le jeune et fringant, quelquefois, entre guillemets, parce que le pauvre est malade, James Wolfe, qui arrive avec une flotte assez imposante à Québec. Les Français manquent de soldats, manquent de ressources, font du mieux qu'ils peuvent, mais Montcalm fait quand même une stratégie défensive. En fait, il fait ériger, creuser des tranchées défensives de la chute Montmorency à Québec, en utilisant vraiment les points stratégiques où il pense que les Français vont peut-être arriver. Et puis commence à la chute pour vraiment se préparer, faire comme une sorte de forteresse naturelle avec les falaises de Québec, les tranchées pour être prêt, amène tous les soldats qu'il peut sur ces coins-là.
Puis pourquoi justement on protège autant la chute Montmorency?
C'est un point d'entrée, comme l'Ancien-Charles est un point d'entrée, donc vraiment, Montcalm savait que c'était des endroits stratégiques comme ça, donc c'est pour ça qu'il s'était préparé à anticiper finalement ces attaques-là. Ce qu'il s'était pas préparé à voir, c'est James Wolfe. James Wolfe qui s'est installé sur l'île d'Orléans, donc la première place qui était le plus facile à prendre, pas défendue ou peu. Donc, prend l'île d'Orléans, par la suite, prend Lévis. Et quand ça s'est fait, donc il commence peu à peu à faire vraiment une sorte de... entourer Québec, donc va prendre la côte de Beaupré. Donc, ce qui est le côté, finalement, de la chute Montmorency, puis il va installer un camp, là, avec un bataillon quand même assez spécial, qui est les Grenadiers de Louisbourg. Et ces Grenadiers-là, c'était... Moi, j'aime les appeler les G.I. Joe de l'armée britannique, parce que c'était comme the best des soldats.
La crème de la crème.
Oui, c'est ça. C'était la crème de la crème qui a installé vraiment, on va dire, exposé au danger. Donc, c'était celui qui était plus près de l'armée française qui était de l'autre côté de la chute. Et puis la chute, pas si grande que ça, là. Donc vraiment, les deux, ben, haute.
Elle est haute, ouais,
mais
c'est
pas,
vrai,
large.
Pas large. OK, tout à fait.
Elle est pas large, donc vraiment, les deux armées se faisaient complètement face, et ce, pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, on s'échangeait des boulets de canon.
C'est pour ça, est-ce que c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un peu une guerre de siège, parce que justement, on se faisait face. Puis, bon, on attendait un peu que... On attendait le messie, finalement.
Oui, ben, on attendait quelque chose.
On attendait le go.
On attendait James Wolfe.
Mm-hmm. On attendait qu'on nous donne le go.
Oui, ben, surtout que James Wolfe, je pense, juste avant, il a eu de la fièvre, parce que James Wolfe était atteint de la goutte.
Ah, je pensais que c'était la gangrène, OK, parfait.
Moi, j'allais dire syphilis.
Oh, mon Dieu! James Wolfe... était très malade.
En somme, il était malade.
James Wolfe a une bonne réputation dans l'histoire québécoise, donc. Mais en tout cas, il était très malade.
Okay.
Et puis, c'est un jeune... Tu sais, c'est un jeune général. Il a approximativement 30, 31, si ma mémoire est bonne. Il est vraiment jeune pour être un général. Mm-hmm. Ouais, mais c'était pas le premier choix non plus. De mémoire, le premier choix qui était supposé s'en venir ici est mort durant l'hiver. Bref. Donc,
de la syphilis, de la goutte, de la gangrène.
Bonne question.
C'est les 3 seules options.
Chers auditeurs, si vous avez la réponse, dites-nous-la, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe après 2 mois? James Wolfe décide de lancer une stratégie, donc une attaque, ce qu'on s'est rappelé comme l'événement de l'assaut de Montmorency. Donc, 31 juillet 1759, il y a quelque chose qui se passe enfin. Et là, quelque chose Et là, je vais vous expliquer le plan comme que James Wolfe avait imaginé. Donc, on se remet dans la peau de ce jeune homme atteint de quelque chose. Hein, on va...
Malade. Toujours mystérieux, oui.
Toujours mystérieux, un peu malade, peut-être boiteux, bref.
Mm-hmm. Les historiens, ils s'entendent pas là-dessus.
Non, c'est ça. Donc, un nouveau débat. On ouvre un nouveau débat aujourd'hui. Mais qu'est-ce que James Wolfe veut faire? C'est traverser, prendre les tranchées juste à côté à la chute pour ensuite prendre Québec. Comment il veut faire ça? Il veut commencer par prendre ses grenadiers qui sont de l'autre côté de la chute, les faire descendre la falaise, les faire traverser le fleuve.
À la nage?
Non, mais en fait, le fleuve, parce que c'est vraiment comme l'embouchure de la rivière et le fleuve, donc vraiment ce qui sépare les deux côtés de la chute.
Okay.
Donc pas le fleuve Saint-Laurent, mais vraiment comme la partie qui est juste à l'embouchure de la rivière qui va rejoindre le fleuve. Et cette partie-là, même encore aujourd'hui, à marée basse, c'est facile de traverser, là.
Okay.
Même encore aujourd'hui, il y a des pêcheurs en plein milieu, comme de l'embouchure, qui vont pêcher à la mouche, là. Donc, c'est facile à traverser, mais ça reste quand même de l'eau à découvrir. Puis ensuite, remonter la falaise pour aller rejoindre les tranchées. Et tout ça, les grenadiers allaient se faire appuyer par des bateaux qui allaient s'en venir de Lévis, qui allaient venir les joindre pour faire vraiment une attaque ensemble, dirigés pour prendre Québec. Donc ça, c'était le plan de match de James Wolfe.
J'imagine que si tu me parles du plan, c'est que ça s'est pas passé comme ça.
Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le pire, c'est qu'il y a des sources qui vont diverger dans qu'est-ce qui s'est passé, surtout entre...
Mon Dieu, on s'entend vraiment sur rien, hein?
Non.
Sur ça, la maladie de Wolfe.
Ben, en fait, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que le discours, finalement, du gouvernement canadien et d'une source vraiment du siège, écrit par un Français, vont diverger dans les heures. Mais donc, si on oublie les heures et qu'est-ce qui s'est passé en gros, James Wolfe a oublié quelque chose de vraiment gros, qui s'appelle la marée du fleuve Saint-Laurent. Donc,
mais il pouvait plus traverser.
Ben, en fait, ce qui se passe, l'attaque commence, tu sais, tout le monde se craint, là, tu sais. Moi, j'imagine, ça fait 2 mois qu'ils attendent, puis là, enfin, on attaque, on fait quelque chose.
On nous a donné le go.
Ouais.
Allons-y.
Mais là, les bateaux qui essaient de s'en venir restent coincés dans le fleuve en raison de la marée.
Mm.
Puis là, tout le monde voit ça. Les Français, James Wolfe, les grenadiers, tout le monde font comme, on fait quoi? Mais finalement, les grenadiers et le général à leur tête ont fait, ben, on est capable de faire...
On est les G.I. Joe.
On est la crème de la crème.
On est les grenadiers de Louis Beau.
Voilà. Donc, les grenadiers, en plus, la marée est basse. Donc, tout est facile à traverser. Donc, descendre la falaise, traverse, remonte la falaise, puis malgré tout, arrive à faire quelque chose, malgré le fait que c'est des redcoats qui montent une falaise. Donc, sont à découvert vraiment pas super niveau stratégique, mais ça avance peu à peu. Mais là, quelque chose arrive que même James Wolfe a pas pu planifier, et c'est une bonne pluie d'été. Là, tu sais, à boire debout. Bon, fait que là, ça fait que nos chers grenadiers commencent à s'enfarger dans de la boîte.
Des grenades mouillées, c'est jamais bon, hein.
Voilà, des fusils mouillés
si
aussi.
Si on escalader, j'imagine que monter le cap, c'est quand même difficile.
Ah, c'est vraiment pas plaisant. Je l'ai monté 2 fois, en fait, le cap, la falaise.
Est-ce que toi aussi un manteau rouge?
Non.
Est-ce qu'il pleuvait cette journée-là?
Non. Non. J'étais en recherche archéologique. En fait, on faisait juste aller voir quelques petites choses dans la falaise. Et à chaque fois, je me sentais mal pour ces chers grenadiers.
Ils étaient dans tes pensées.
Oui, étonnamment, des redcoats.
Ouais, mais seule fois, est-ce qu'on se sent mal pour les redcoats?
On est en train d'avoir la compassion pour les Britanniques. Qu'est-ce qui se passe?
On est où, là?
On est dans une situation vraiment pas plaisante. Donc, quand il commence à pleuvoir, faut comprendre que l'assaut arrête. Donc, les grenadiers, malgré, en fait, tout ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, ont comme fait, là, ça fonctionne plus.
Mm-hmm.
Donc, retrait et sonner. Et puis, voici la fin de l'assaut, de la chute Montmorency, qui est pas grand-chose d'héroïque.
Non, c'est vrai, c'est pas grand-chose.
On n'est pas dans Braveheart.
Mais les Français ont gagné.
Moi, c'est toujours ma conclusion quand je parle de cette bataille, parce que on la compte souvent à la chute, et les clients, on dirait, attendent une fin. Puis là, tu fais, voilà!
C'est un peu un coup de poisson, quand même.
Ouais.
Elle a quand même eu des répercussions je crois, importante, cette défaite-là. Parce qu'il faut s'imaginer que dans les camps, James Wolfe disait à ses soldats, surtout à ses grenadiers, « C'est de votre faute si on a perdu. Mm. Vous n'avez pas attendu. » Donc, j'imagine pas l'ambiance. Et surtout que les généraux à James Wolfe, après ça, ont vraiment commencé à se dissocier de ses décisions militaires. Mm. James Wolfe était sûrement pas souvent là parce qu'il était encore plus malade, avait encore plus de fièvre. Même qu'il y a des caricatures d'un de ses généraux, que le nom m'échappe, mais qui dessine vraiment de façon humoristique James Wolfe. Dont une que tu vois vraiment James Wolfe avec une longue vue qui regarde dans les toilettes. Puis il dit l'ennemi est là ou tu sais quelque chose comme ça. Donc on voit vraiment
on
comment.
On le voyait très paranoïaque là.
Oui, mais en fait je sais, ça devait vraiment pas être sympathique être dans les camps anglais, français non plus, mais surtout l'ambiance après cet événement là de juillet jusqu'en septembre, tiens, il y a un petit gap. Donc
oui, puis c'est quand même aussi des batailles qui sont assez importantes, je veux pas pour. Pour les métropoles en Europe parce que c'est le sort de l'Amérique du Nord qui se décide, donc j'imagine aussi que d'office, James Wolfe puis Montcalm, ils ont énormément de pression aussi à l'idée de tenir la ville, donc, puis là James Wolfe il a non seulement la pression de tenir l'Amérique du Nord ou conquérir la Nouvelle-France, mais en plus c'est la pression d'essayer de se prouver lui-même en tant que soldat puis général pour avoir des postes plus élevé dans des colonies plus le fun que le Canada éventuellement. Donc, ça devait être stressant.
Oui, malheureusement, il ne s'est rien passé après. Pauvre gars.
Ben, il s'est passé des choses après. Mais...
oui, mais...
mais pas à la chute de Montmorency.
Ben, pas à la chute de Montmorency, puis pas après la prise de Québec. Ouais. Pour James Wolfe.
Pour James Wolfe, puis pour Montcalm, ça s'est mal terminé.
Oui. Vraiment. Souvent, je finis par... savez-vous que James Wolfe est retourné en Angleterre dans un baril de rhum?
Non!
Oh!
Peut-être que ça l'a soigné de sa syphilis, de sa gangrène, de sa goutte, on sait.
Ça désinfecte bien.
C'était peut-être de l'alcoolisme, en fait, qui a fait. Plus une petite blague, elle a fait un peu mauvaise.
Voilà, on a résolu, donc. Bonne théorie. Va peut-être être approuvée par la communauté scientifique dans les prochaines semaines.
On attend avec impatience. Mais en attendant, il y a quand même quelque chose qui se passe aussi pendant la conquête qui est, dont on parle beaucoup au Québec, là, la légende de la Dame Blanche. Est-ce que tu veux nous raconter une histoire? On va tamiser les lumières, là, puis,
Moi, je vais avoir une réponse plate. J'aime pas ça, conter une légende enregistrée. C'est fait pour les conteux. Et pas les conteurs, les conteux. D'après moi, une légende doit pas être fixe. Donc, je vais pas compter la légende de la Dame Blanche ici.
Ah là 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 là. Moi, j'étais venue juste pour ça.
Ben, tu peux partir. Parce que la légende de la Dame Blanche, on peut la résumer. Je vais pas la compter. Je vais pas être comptée à soir, mais je peux
bien dire. Bon, je suis de retour.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En gros résumé, la Dame Blanche, c'est Mathilde Robin, des fois son nom change, mais bon. Mathilde, qui veut être éperdument en amour, tombe amoureuse de Louis Tessier, mais malheureusement, la guerre de la conquête et James Wolfe arrivent. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le beau Louis? Donc, va dans la milice, parce que Louis, je le dépeins toujours comme un jeune homme fort et sûr de lui-même. Donc, vraiment, Louis s'embarque dans la milice, puis Mathilde, comme les autres femmes... Et autres personnes qui ne peuvent pas se battre, en fait, là, durant ces événements-là, vont se cacher dans les bois. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Louis décède durant la bataille, et puis Mathilde, sans dramatiser, parce qu'on peut allonger je pense que mon record, ça a été de la compter pendant 40 minutes.
Quand même.
Mais là...
intéressant, mais...
résumons.
Oui,
j'apprécie plus le résumé maintenant.
Oui, donc Mathilde, folle de douleur, va se suicider à la chute Montmorency après avoir appris la nouvelle. Moi, des fois, je la dramatise, puis je dis qu'elle a attendu un an à chercher Louis à la chute. Donc, Mathilde s'est suicidée. Il y a des guides qui vont vraiment compter que son voile s'est attaché, puis a fait le voile la mariée à côté de la chute, ou d'autres encore disent que c'est un voile de la mariée qui est un peu plus loin. Donc, je vous dirais à peine un kilomètre la chute, là.
Quand tu parles de voile la mariée, tu parles d'une petite chute?
Oui, c'est une petite chute. Ces petites chutes-là, en fait, scientifiquement, ça s'appelle des résurgences. Donc, c'est des rivières souterraines qui ont été creusées dans de la roche sédimentaire en raison de la chute. Et puis, Mathilde, même si... Parce que la première question que les gens nous posent, c'est « Mathilde a-t-elle existé? » Mais c'est pas comme, par exemple, Marie-Joseph de Corriveau. On n'a pas de preuve que Mathilde Robin a été quelqu'un et que Louis Tessier... En fait, pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour... C'est tout le temps difficile de dire jamais. Mais pour l'instant, non. Mathilde n'est pas quelqu'un. Mais d'après moi, Mathilde reste un sentiment qui a été vécu durant la guerre de la conquête pour toutes les femmes qui ont attendu sans savoir si leur mari, leur fils, quelqu'un de leur entourage était rendu, tu sais, dans les tranchées, dans les fronts, puis qui sont jamais revenus. C'est pour ça que cette légende-là, je crois, est dans les plus populaires. Tout le monde connaît la légende de la Dame Blanche. Puis vraiment tout le monde. Tu sais, des fois, quand on a des groupes de jeunes, on essaye à la chute Montmorency de dire que elle a trébuché, Mathilde, puis est tombée dans la chute en pleurant. Tu sais, pour pas dire, hey, elle s'est suicidée à la chute, mais les jeunes nous le disent. Ouais, mais elle s'est suicidée, tu sais. Tout le monde la connaît, la légende de la Dame Blanche, puis c'est super. Puis même les gens qui la connaissent pas, donc des touristes qui viennent un peu partout, vont nous dire, hey, près de chez moi, j'ai aussi une chute. Et on a une Dame Blanche.
Ben, il y a la même légende aux chutes du Niagara, moi, je pense.
Ben, en fait...
J'en avais entendu parler aussi.
Une chute, habituellement, est égale à une légende par rapport souvent à une femme désespérée qui s'est suicidée. C'est comme un phénomène de légendification. Est-ce que je le dis bien? C'est vraiment un phénomène de créer une légende. Désolée si...
légendification, ça me semble être un terme tout à fait approprié.
C'est un mot.
Ben oui.
Ou sinon, voilà, j'ai inventé un mot. On a inventé une nouvelle théorie sur James Woolfe, des nouveaux mots.
C'est
on
est vraiment... Affaires.
On refait le monde.
On est dans un espace créatif, ici. Donc, c'est pas juste un podcast sur l'histoire, c'est un espace créatif de nouvelles découvertes et de nouvelles théories.
Tout à fait.
Donc, on peut enchaîner. Là, est-ce que c'est le temps, Rose, de parler de Fred?
Je pense qu'on est arrivé.
Moi, j'ai bien hâte qu'on parle de Fred.
Ouais. En fait, Fred a habité 3 ans à la chute. Donc, a pas fait grand-chose, mais a tellement été retenu comme la première personne qui a habité à la chute.
Mais Frédéric Aldiman, là, c'est pas juste un gars qui a habité à la chute, quand
non.
même.
Non, veux-tu faire une introduction sur Fred?
Je peux pas dire grand-chose sur Frédéric Aldiman, j'avoue que j'en connais pas très long, mais je peux dire une chose, il a été le 3e gouverneur général britannique au Canada.
Voyons donc!
Oui. Ben oui, trois choses! Écoute, Frédéric Aldiman, c'est un Suisse qui s'est engagé comme mercenaire dans l'armée britannique.
Qu'est-ce qu'il faisait comme gouverneur britannique?
Ben là, faut l'expliquer dans les circonstances. Okay. Frédéric Aldiman a participé à la prise de Montréal, a été gouverneur par intérim durant le temps qu'on était dans le gouvernement militaire à Trois-Rivières, si ma mémoire ne se trompe pas. Puis, par la suite, est devenu gouverneur, le 3e. Puis, en fait, sa position a souvent été justifiée par le fait que, bon, c'était, oui, un protestant, mais il parlait français. Mais, Aldiman, ça reste encore, en fait, j'ai pas tant fouillé sur lui. Parce qu'on dirait qu'il a tellement été... utilisé à la chute que j'ai voulu approfondir autre chose.
Je me posais, moi aussi, comment un mercenaire suisse est devenu gouverneur général d'une province britannique. C'est une question tout à fait adéquate à laquelle j'ai pas de réponse, par exemple.
Ben, moi non plus. Donc, on ouvre encore une fois un nouveau sujet.
Quelqu'un qui était atteint de la goutte, de la syphilis.
Ou qui était alcoolique.
On a senti une appartenance. On était comme, hein, on est dans la même gang.
Ouais, ouais.
Boys club, hein.
C'est important. Une masculinité pas toxique, par contre? On sait pas, peut-être.
Il est tellement malade, peut-être ça devient toxique. Je sais pas.
Mais si nous revenons à la chute, Montmorency.
Ouais, revenons à nos moutons.
Ouais, Frédéric, quasiment, il était pas malade pour de vrai, là. Mais en tout cas,
s'il vous plaît,
parfait. Qu'on sait, il était pas malade.
Il était quand même vieux, par contre.
Ouais, oui, mais c'est pas une maladie d'être vieux.
Je fais pas de l'angisme. Aldiman, en fait. Aldiman. Ou Fred. En fait, je vais l'appeler Fred, parce que je trouve que c'est trop froid, je l'appelais par... En fait, parce que ça fait 3 ans que je fouille sur
Fred, tu le connais, là. T'as appris à le connaître.
Ben, des fois, c'est une proximité. Mm-hmm. Puis, sincèrement, à chaque fois, t'imagines, à chaque fois qu'on parle de Frédéric Aldiment, puis qu'on n'est pas en visite, qu'on dit tout le temps Frédéric Aldiment, à un moment donné, on est tanné, fait qu'on l'appelle Fred.
Mm-hmm. C'est devenu votre ami, dans l'équipe.
Ben oui. Donc, toujours dans l'équipe, Fred. Mais Fred a quand même fait construire le premier manoir au-dessus de la chute Montmorency. Au-dessus d'une maison de la famille Ménard. Donc, on les oublie pas, s'il vous plaît. Mais quand même, une personne, en fait, la personne qui faisait les achats pour Fred, c'était François Babi. Puis c'est quand même une famille assez importante là, à Québec. Puis en fait, Babi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté deux terres, en a échangé une autre pour vraiment que Fred aille la pointe, la chute juste à côté. Puis il a construit un manoir qui était vraiment à la mode à l'époque. Donc c'était vraiment un style qu'on appelait néo-paladien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'était une maison qui était quand même inspirée de tendances antiques, mais qui ont été en fait là, un peu remodifiées pour plaire, surtout aux États-Unis. Donc, c'est un style qui peut assez transparaître comme colonial. Faut vraiment s'imaginer un manoir qui est quand même assez petit, là, donc le bâtiment principal assez petit, avec deux maisons comme à chaque extrémité, le tout rejoint de véranda, quelque chose d'ouvert, parce que c'était une maison d'été. Fred s'est construit une maison pour l'été.
Est-ce que c'est toujours le manoir qui est là présentement?
Non. Pour plusieurs raisons. En fait, même si le manoir n'est pas brûlé, parce que oui, le manoir a brûlé en 1993, donc il n'y a pas si longtemps.
Mm-hmm.
Mais il a tellement été modifié. Parce que oui, Frédéric Aldiment a construit le premier, on est en 1781. Mais de 1781 à 1993, le manoir a approximativement toujours été habité.
Okay.
Donc, il y a eu des modifications sur le bâtiment. Puis, en fait, quand le manoir a brûlé en 1993, bon, on a trouvé ces modifications-là, ce qui est super. Mais le site a tellement été perturbé que des fois, c'est difficile à voir ou à percevoir. Mais on a tellement beaucoup de sources iconographiques. Donc, dès que Fred s'est installé, ben, il y a eu des peintres qui sont venus. Alors, on a eu beaucoup de peintures, puis ensuite, on a eu des photographies, des photos de la chute, on en a tellement. Puis à chaque fois qu'il y a une photo de la chute, des fois, dans les pourtours des photos, on voit des bouts de bâtiments, puis on essaie de comme refaire les morceaux du casse-tête parce que, ben, il y a certains bâtiments, on a sûrement comme deux ou trois maisons en ce moment sur le site qui n'ont pas encore été trouvées ou qu'on a perdu la trace. Parce que le site est immense encore aujourd'hui. Puis on n'a pas beaucoup de plans qui parlent d'autres choses que le manoir. Tu sais, on dit que la fixation sur la chute Montmorency a été sur les grands personnages, oui, mais aussi était sur le manoir. Donc, le manoir, c'est comme une personne qui était là tout le long de l'histoire, en fait, où on voit l'histoire de la chute comme l'histoire du manoir, mais d'après moi, c'est deux choses complètement différentes. Faut pas comme les joindre ensemble. Parce que même quand Aldiment était dans son manoir, ben, la chute appartenait pas qu'à lui. La grève et l'eau de la chute ne lui appartient pas. Ça appartient au seigneur de Beauport. À l'époque d'Aldiment, c'est la famille Juchereau. Donc lequel? Bonne question. Mais c'est vraiment cette famille-là qui a vraiment été les seigneurs pendant très longtemps à Beauport.
Fait que là, mettons, ça veut dire que Frédéric Aldiment, il a son manoir, il est bien, il est en été, mais il peut pas exploiter la chute finalement.
Non. Non, c'est ça. Donc, faut pas imaginer parce que c'est le gouverneur, il pouvait faire ce qu'il voulait, vraiment pas, puis il y avait d'autres activités autour. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Encore là, une bonne question, parce que l'histoire s'est concentrée sur le manoir.
Je sais pas si t'as vu ça dans les sources, parce que c'est aussi sous Frédéric Aldiment que le château Saint-Louis brûle, si je me trompe pas. Donc, je me demande, est-ce qu'à ce moment-là, le manoir devient un peu comme une résidence officielle du gouverneur du Canada? Est-ce que c'est là qu'ils vont recevoir des dignitaires? Est-ce que c'est là qu'ils vont avoir des balles, des choses comme ça? Ou...
Des balles, peut-être. Écoute, peut-être, parce que, par exemple, on le sait qu'une des personnes qui venait le visiter, qui est une baronne allemande, Frédérique Charlotte Louise von Massow.
Ça fait Frédérique, elle aussi, c'est meant to be.
Oui, ben en fait, elle était surtout connue comme étant la baronne de Rietzel, parce qu'elle avait le titre de baronnerie de son mari, qui était le baron de Rietzel, qui était dans la cavalerie qui allait supporter durant ce qu'on appelle la Révolution américaine.
Ah!
Donc, tu sais, pendant ces
ces petits conflits-là, il avait besoin de cavaliers. Puis la baronne de Rietzel, qui est une femme quand même exceptionnelle, a suivi son mari avec ses enfants. Donc, elle avait vraiment, je pense, deux enfants comme en bas de 5 ans, puis est quand même venue à Québec en passant par l'Angleterre pour être sûre d'avoir un bateau. En tout cas, tu sais, Angleterre, Québec est venue ici, puis vraiment, c'était quand même illustre d'avoir une baronne à Québec, puis elle est venue à la chute Montmorency. Puis on le sait parce qu'elle écrit beaucoup de lettres à sa mère. Elle avait beaucoup de correspondances personnelles qui ont été conservées encore aujourd'hui. Puis elle a parlé de la chute à sa mère, comment elle était impressionnée. Donc, oui, il y a des gens qui ont été à la chute, autre que Frédéric Haldimand, qui avait une maison d'été. Mais c'était absolument une maison d'été. Ça n'a jamais été la maison comme officielle du gouverneur. En fait, de ce que j'ai compris, là, parce que c'était que sa maison d'été. Donc, durant l'hiver, il était à Québec. Quand le château a brûlé, il a sûrement habité à quelque part d'autre.
Mais en fait, il y a le château Haldimand qui se fait construire après que le château Saint-Louis
Donc, brûlé. Habitait-le.
Mais moi, ce que j'avais compris, c'est que Frédéric Haldimand n'aurait jamais vécu dans le château. Il aurait été construit après la fin de son poste ou après qu'il soit mort. Je sais qu'il n'a jamais habité dans le château Haldimand.
Mais je pense qu'il y a aussi une période où est-ce qu'il y avait un hôtel qui avait été utilisé comme... En tout cas, qu'il y a eu un moment où est-ce qu'on a eu... Ben, quand le château Saint-Louis a brûlé, il y a eu un moment de crise où est-ce qu'on avait comme quelques chambres d'hôtel qui ont été comme rassemblées, puis c'est comme... Ah, le gouverneur!
Au moins, il y avait le maman Montmorency l'été.
L'été, quand même. Mais ça fait loin pour les pauvres sujets qui ont besoin de faire des requêtes.
Ou Fred... Il commençait à être vieillissant parce que son contrat est terminé. Puis lui, après, tu sais, c'est ça, après 3 ans, en fait, il habitait que 3 étés à la chute, il est parti. Ses voyages ont continué. Puis ensuite, finalement, revenu à sa ville natale en Suisse et il est décédé là-bas. Puis quand il est décédé, il a cédé, en fait, tout son héritage est allé à son neveu. Son neveu voulait... Tu sais, oui, il avait des connexions en Amérique, il était souvent venu à Québec, Canada, mais il voulait pas du manoir Montmorency. Il a essayé de vendre le manoir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le manoir Montmorency, c'est un des premiers manoirs comme ça. Il y en a eu plusieurs en même temps. Là, c'est comme une sorte de bulle d'installation de l'élite anglaise dans les magnifiques campagnes françaises du territoire québécois. Mais c'était quelques habitations. Il n'y avait pas beaucoup de manoirs comme ça, donc pas beaucoup de personnes qui pouvaient se permettre un manoir comme ça. Donc le manoir, par la suite, a été loué à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là a vraiment un... Puis là, je vais faire du franglais, là, mais a été dans le spotlight de l'histoire de la chute. Édouard Augustus, ça vous dit quelque chose?
Non, aucunement! On dit, mais quelle annonce décevante!
On s'attendait à plein de choses, c'est sauf ça. Tout... On s'attendait à ce que James Wolfe soit revenu dans son tonneau.
Oui, il est pas mort, puis...
Non, le plot twist est pas super, mais c'est ça. Édouard Augustus. Qui est-ce? C'est un prince de la couronne britannique, 4e fils de George III. Qui est George III? Donc, aussi couramment appelé le roi fou. Donc, pauvre bonhomme qui était atteint de bipolarité. Mais cette famille-là, comme assez complexe. Dynamique familiale assez complexe. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'Édouard Augustus, comme 4e fils, bon, il était dans l'armée. Il était à la tête du 7e régiment d'infanterie. Puis, il y avait des relations assez complexes avec son père.
Mais comme tout le monde avait des relations assez complexes avec son père, je pense.
Ouais. Alors, il était pas seul. Non. Mais je sais pas comment il vivait. J'ai pas eu l'occasion de lui poser la question.
Vraiment, elle a peu fait de recherche en revenir ici, quand même.
Non. Ben, Édouard Augustus, encore une fois, il a tellement été dans le spotlight que j'ai comme fait... Mais Édouard Augustus...
Vous l'avez pas interviewé, c'est ça, avant?
Non, malheureusement.
Vraiment décevant.
Je suis désolée. Mais Édouard Augustus était, c'est ça, la tête du 7e régiment d'infanterie et était tellement strict avec ses hommes qu'il était détesté aussi par ses soldats.
Non.
Donc, t'imagines pas sa vie, mais elle devait être pas super. Puis, dans ses nombreux voyages, un jour, demandez-moi pas la date exacte, s'il vous plaît.
On aimerait savoir la date exacte.
Ben, je vais répéter.
un jour, il a rencontré une magnifique jeune Française.
Oh! L'amour!
Du doux nom de Thérèse Bernadine Alphonsine de Montgenais. Tout le monde l'appelait Madame Julie de Saint-Laurent. Et elle aussi...
Mais Julie, c'est aucun de ses noms.
Ouais.
Il y avait tellement de choix.
Mais peut-être qu'en anglais, tu sais...
On prend un autre.
Julie. Ouais, c'était mieux que... Thérèse. Je sais pas.
Thérèse, ouais.
Ça sonne comme T-Rex.
Ça, c'était excellent. À chaque fois, je vais maintenant le dire en visite. Je vais entendre ça. Je vais entendre T-Rex. Mis à part tout ça, Julie est devenue... est devenue la maîtresse d'Edouard Augustus. Et puis, ils ont commencé à faire des voyages ensemble. Mais on est quand même à la fin du 18e siècle. Une femme non mariée qui se promène avec un homme non marié est une maîtresse. Alors, donc, quand le régiment de Edouard Augustus est arrivé à Québec, Edouard Augustus cherchait une maison d'été illustre pour sa présence. Donc, le manoir Montmorency a été loué par lui.
C'est le champ parfait, on est loin de la ville.
Voilà, donc, puis vraiment, c'était quelqu'un d'importance. Un prince. Mais un prince et sa maîtresse. Puis ça, faut le préciser, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Edouard Augustus, on pense directement un peu à un épisode de Bridgerton. Donc, des balles, des fêtes. Mais c'était pas exactement ça, parce que Julie était une maîtresse.
Ben, c'est un peu un épisode de Bridgerton quand même, là. Il y a quand même des relations à l'extérieur du mariage dans Bridgerton.
Sans erreur de costume.
Ouais, ouais.
Voilà.
C'est un épisode de Bridgerton, mais avec tous des beaux costumes.
Oui. Donc, exactement. Ça nous met une belle image avec la chute en background. On n'a pas de musique adaptée de Taylor Swift au violoncelle, mais la chute Montmorency.
On peut faire ça pour vrai. Oui. En Bridgerton. Oh mon Dieu.
Je pense qu'il y a même du The Weeknd.
Mais oui! Il y a du... Je pense que ça commence sur Ariana Grande.
Ben
c'est
non.
Comme Seven Rings ou quelque chose comme ça. Bon, mais on comprend que Fred n'écoutait pas Bridgerton.
Donc, oui, Fred.
On pourra vous mettre la playlist de Bridgerton en annexe.
S'il vous plaît.
Il y en a une. Elle est excellente pour étudier. Je recommande à tout le monde.
Moi aussi, j'écoute la saison 2.
Ouais, la saison 2. Mais la saison 2 était meilleure que la saison 1 en général.
Oui,
mais la playlist aussi était meilleure.
Je peux pas croire.
Ouais.
Vraiment, t'as-tu qu'est-ce que j'avais appris ce soir? Ça, c'est la meilleure chose.
Le top 1
de qu'est-ce que j'ai appris. Ils font des remix de chansons connues au violon dans Bridgerton.
Oui.
Ah, revenons nos moutons.
À la chute?
Oui.
Moi, je l'attendais. Donc, ils sont restés 3 étés encore une fois. Donc, pas longtemps.
Puis, ça peut être assez traumatisant aussi parce qu'elle est française, hein, Julie. Donc, elle n'est pas canadienne-française. Elle arrive, elle aussi, d'Europe. Puis... On en avait déjà parlé ensemble, toi et moi, mais on peut en rediscuter un peu maintenant qu'on est enregistré. Mais étant donné que c'est une maîtresse, elle se situe un peu à l'extérieur de tous les cercles possibles. Donc, elle connaît de base personne ici, puis elle peut pas rencontrer personne non plus. Donc, les seules possibilités pour ses amis, c'est comme ses servantes. Elle peut pas être amie avec des femmes mariées.
Et ils se sont quand même liés d'amitié avec la famille de Salaberry, tellement que Edouard Augustus est devenu le parrain d'un de leurs enfants. Et si je ne m'abuse, Julie est devenue la marraine.
Oh!
OK.
Donc, quand même, il y avait des liens de proximité avec cette famille assez importante de Québec.
Est-ce que Julie, elle avait des liens particuliers avec les Canadiens français dans la ville de Québec?
C'est une bonne question parce que là, on parle finalement, oui, elle parlait français, mais est-ce qu'elle avait parlé au boulanger? Puis, il y a la madame qui tapait son tapis devant son entrée? Sûrement pas.
Mais dans les journaux, tu sais, dans les médias, est-ce qu'on parlait de la maîtresse?
C'est une bonne question. Il faudrait vraiment voir les périodiques de l'époque. Peut-être qu'on a mention d'elle ou peut-être pas parce que c'est une maîtresse. Mm-hmm. Donc, elle a vraiment une sorte de rôle, même encore aujourd'hui, qui est entourée peut-être un peu d'un aura de mystère. Encore là, on l'associe tout de suite à Bridgerton. On l'associe à quelque chose de dramatique. Mm-hmm. Peut-être que ça l'était pas. Mais commence à voir, ça, c'est tellement une histoire du privé, un peu, que moi, je trouve ça complexe, puis c'est pas la première chose que j'ai trouvée quand j'ai fouillé. Fouillé sur Julie ou fouillé sur la guerre de 7 ans, c'est plus facile fouiller sur la guerre de 7 ans,
clairement. Ah ouais?
Et oui, Rose.
C'est étonnant.
Elle reste mystérieuse, mais il y a même des familles qui ont revendiqué une descendance là, de ce couple-là. Vraiment. Mais est-ce qu'ils ont eu des enfants? On le sait pas.
Edouard Augustus s'est marié éventuellement?
Ça, c'est la partie peut-être dramatique de l'histoire. Après 27 années ensemble, là, il y a quelques petits problèmes dans la famille royale britannique.
Mm-hmm.
Il y a un manque d'héritiers.
Mm-hmm.
Donc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants des princes. Ils ont des enfants illégitimes. Mais il n'y a pas d'enfants légitimes. Donc, Edouard Augustus est poussé par sa famille à se marier avec quelqu'un de décent, donc quelqu'un noble slash royal, qui n'est pas français. Donc, Julie est laissée à Paris après 27 années. En fait, là, j'ai peut-être l'air rancunière, mais moi, en étant Julie, j'aurais peut-être été un petit peu fâchée. Mais là, celles sont les motivités, puis vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Edouard Augustus, il retourne au bercail, marie une princesse qui s'appelle Marie-Louisa Victoria, donc une princesse germanique. Puis, ils se marient, et ils ont une petite fille ensemble qu'ils vont appeler, et roulement de tambour de Rose, Victoria.
Bon, enfin! J'ai un punch, le fan!
Après Bridgerton, Victoria, oui, Edouard Augustus est le père de la reine Victoria qu'on a connue un peu plus tard dans l'histoire.
Edouard III, ça serait son grand-oncle? Ou son oncle?
Son oncle.
À Victoria.
Son oncle. En fait, la personne qui était avant Victoria, c'était son oncle. C'était le
William
frère.
Guillaume. En français, William en anglais.
Ouais.
OK.
Oui.
J'ai perdu.
On va mettre en annexe.
Mais dans le fond, Edouard Augustus, c'est le père de Victoria.
Oui.
Puis son frère, c'est William IV.
OK, donc il y a eu Edouard III. La couronne est tombée à William IV, ensuite à l'enfant d'Edouard Augustus.
Oui.
C'est ça, OK.
Parce que c'est la seule enfant légitime.
Oui, c'est ça. Mm-hmm.
Il y avait d'autres enfants illégitimes, mais voilà mon clé, illégitime. Donc c'est la reine Victoria qui a succédé à la couronne. Pourquoi pas Edouard Augustus? Parce qu'il était mort. Mm-hmm. En fait, il est décédé. Plot twist. Il est décédé d'une pneumonie un an après la naissance de la reine Victoria, donc aucunement connue sa petite fille.
Mm-hmm.
Puis qu'est-ce qui s'est passé avec Julie?
Donc elle, dès la naissance, on sait qu'elle va avoir la couronne éventuellement.
Oui, moi j'avais... Mais c'est peut-être toi, Fred, qui m'a raconté cette histoire-là, ou une autre personne que Fred, mais j'avais eu comme histoire que William IV, justement, qui a été roi pendant quelques années avant Victoria... Il aimait vraiment pas la personne qui allait être la régente de Victoria. Donc, il s'était dit, il faut que je reste roi, il faut que je reste en vie le plus longtemps possible pour que Victoria ait du trône sans avoir besoin d'une régence.
Oh, okay.
Et comme, dès que Victoria a eu 18 ans, l'âge pour
prendre...
Il est décédé comme quelques mois plus tard.
Vraiment, mais c'est parce qu'en fait, la mère de Victoria était hyper protectrice. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que Victoria était très couvée dans sa jeunesse. Tellement que, tu sais, elle sortait pas beaucoup de la résidence où qu'elle habitait. Puis ça pose problème dans l'historiographie qu'on a sur la chute. Est-ce que je peux en parler, s'il vous plaît?
Vas-y.
OK. Donc, un livre, si vous ouvrez un livre que vous trouvez un peu poussiéreux à la bibliothèque, écrit par Georges Bérard dans les années 40 sur la chute Montmorency, il y a des belles images, mais aussi une histoire fantastique qui parle de la visite de Victoria à la chute. En fait, le Georges Bérard dit que Victoria a nourri un cerf près de la chute Montmorency.
Mais Victoria n'est jamais venue au Canada.
Voilà. Voilà la bonne réaction qu'il faut avoir à cette histoire. La reine Victoria ou Victoria dans sa jeunesse...
Est-ce que ça pourrait être la princesse Louise, sa
non.
fille? Je veux dire, pourquoi l'auteur aurait inventé ça de toute pièce?
Ben, pourquoi la princesse Louise aurait nourri un chevreuil?
Oui, mais ça a quand même plus d'allure que la Victoria.
Oui, mais Georges Bérard a marqué Victoria,
bon,
future reine et fille d'Édouard Augustus.
OK, là, c'était très clair. Ouais.
Non, c'est vraiment très clair. Mm-hmm. Le passage exact, je ne l'ai pas, mais c'est environ ça.
Puis ça c'est écrit dans un livre d'histoire.
Mm-hmm. Vous savez pas, Victoria est née à la chute, elle est dans la chute.
Oh mon Dieu!
Dans le petit toboggan, puis pouf!
Puis Mathilde
la dame blanche
sortie en des
eaux. Sa mère.
C'est comme ça que la royauté britannique est liée à la chute. C'est ça la fin de l'histoire. Mais vraiment, encore là, on voit un attachement de la mémoire collective aux personnages importants. Tant dans des familles canadiennes qui ont revendiqué une descendance d'Augustus puis de Julie, qui sont restées un peu plus longtemps au Québec, qui sont restées que 3 étés à la chute, mais tu sais, ils sont allés à Trois-Rivières aussi, me semble. Donc vraiment, puis ou encore de dire que la reine Victoria nourrit un chevreuil à la chute. La première fois que j'ai entendu, moi j'étais là, ok, pourquoi?
Non, mais après ça, deux erreurs. La reine Victoria n'est jamais venue au Canada. Et on n'a pas de chevreuil au Canada, il y en a seulement en France. C'est des cerfs de Virginie. En tout cas, faudrait vraiment...
Mais il y a eu des cerfs de Virginie à la chute.
Oui, parce ça, c'est très possible, mais pas de chevreuil.
Le 1er août de Québec a été à la chute. Mm-hmm. Mais ça, c'est
mais
pas...
Mais peut-être des chevreuils à la chute
peut-être,
à ce moment-là.
Peut-être qu'ils ont importé de France.
Wow.
Peut-être.
Mais c'est une erreur commune d'appeler les cerfs de Virginie des chevreuils.
Ben, on va le dire à Georges Bérard. Encore une fois, plus en vie... Mm-hmm. Donc, il va falloir se trouver une technique de Ouija là, pour Wolf, Edouard Augustus.
Ouais. Wolf, faudrait vraiment lui demander c'était quoi sa maladie.
Ou on peut aller voir sur Wikipédia, peut-être que ça va nous le dire aussi.
C'est certainement le fantôme.
Ce qui est plus simple.
Lui-même, qui a écrit sa page Wikipédia, puis t'es comme, haha, c'est une maladie que vous n'avez pas nommée.
Il est en train de la changer à l'instant même.
Ouais. Il y a des modifications tout le temps avec un surnom différent.
Bon, eh bien, tout ça, ça nous amène déjà à la toute fin de cet épisode sur la chute Montmorency. Mais n'ayez crainte, chers auditoires, ça se termine pas là. En fait, on va se retrouver dans 2 semaines, la même gang de filles, pour parler encore de la chute Montmorency, mais à une différente période, là, pour parler de la chute plutôt à l'époque proto-industrielle et industrielle. Ça va être très différent. Les filles et moi, on va l'enregistrer maintenant, donc on se dira pas bye au micro tout de suite, on va se le dire la semaine prochaine, dans 2 semaines en fait. J'arrête pas de dire la semaine prochaine, mais c'est aux 2 semaines nos podcasts qui sortent. Donc, à dans 2 semaines la gang!